Mémodio, une mémoire sonore.
Nous sommes très heureux à la bibliothèque d'accueillir le deuxième rendez-vous étape de la création avec Serge Peille. Alors je contextualise pour les personnes qui n'étaient pas là au premier rendez-vous, puisque c'est le second. Le premier rendez-vous a eu lieu le mois dernier. Donc la bibliothèque a la grande chance de recevoir Serge Peille en résidence fin 2025 et en 2026, à l'occasion en fait, d'un don assez important qu'il nous fait de toutes ses archives. Donc Serge Peille, poète plasticien de renommée internationale qu'on ne présente plus, et qui donc a une œuvre phénoménale, monumentale, et que nous avons donc la joie de recevoir donc ses ouvrages et ses archives. À cette occasion, il va nous créer aussi une œuvre donc plastique qui va se déployer dans les 24 vitrines de la grande salle, permettant en fait de parcourir l'œuvre de Serge Peille, voilà les multiples volets de son œuvre donc dans ces 24 vitrines. L'inauguration aura lieu à l'occasion des Journées européennes du patrimoine de 2026. Mais donc pendant tout ce temps, il a un atelier de création dans lequel il travaille. Vous pouvez voir en passant, il ne faut pas le déranger. Bien entendu, il faut le laisser créer. Et donc, nous allons proposer au fil de cette résidence des étapes de création qui vous permettront de découvrir différentes facettes de son travail. Aujourd'hui, la séance s'appelle « Critique du temps », qui est donc un rappel de son ouvrage « Manifeste magdalénien, critique du temps » paru aux éditions du Dernier Télégramme en 2016. Et donc, Serge Peille va nous faire parcourir aujourd'hui sa poétique de la préhistoire. Et je n'en fais pas plus et je lui laisse immédiatement le micro. Merci beaucoup.
Écoutez, je ne sais pas comment commencer. Et je ne sais pas comment vous saluer. Tout ce que je fais est très long. Il faut que je fasse quelque chose de très court, puisque ça ne dure qu'une heure. Et simplement, je voulais vous dire que un jour, je vais raconter quelques histoires, et après peut-être que je vous dirai des poèmes. Un jour, j'ai fait ce qu'on appelle une performance, que moi j'appelle une poésie d'action, devant la grotte de Nyon, il y a très longtemps, avec mon ami Michel Ragy, qui était un derviche tourneur. Et là, il y avait toute la vallée qui était descendue, il y avait plus de 500 personnes. Et nous avons travaillé sur le parvis de la grotte de Nyon. Et c'était fantastique, car il y avait les montagnes qui se découpaient devant nous. Et puis après, nous sommes rentrés à l'intérieur de la grotte, voir les bisons et voir les flèches votives qui avaient été tirées sur ces rochers. Et c'est un souvenir. Monségur était à côté, c'est donc un souvenir qui m'a marqué toute la vie. 30 ans après, je suis revenu devant la grotte de Nyon pour faire visiter cette grotte à des amis. Et là, quelle n'a pas été ma surprise de voir que devant la grotte, on avait installé un immense bâtiment où les gens pouvaient aller aux toilettes, acheter des souvenirs. L'industrie du tourisme avait détruit le parvis de la grotte de Nyon. Destruction. C'était ne rien comprendre à la préhistoire, notamment avec des amis. Je les ai interrogés, qui étaient des archéologues préhistoriens, et je leur ai dit, mais comment ? Ah, il m'a dit, Serge, on ne peut pas. On est obligé de faire de la publicité, de vivre avec le tourisme. Mais c'était de ne pas comprendre l'intérieur de la grotte. Parce que si quelqu'un a dit ce qui est en haut comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas comme ce qui est en haut, on peut dire aussi que ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Et devant la grotte de Nyon, il y a des milliers et des milliers d'années, les artistes chamans qui étaient là, nos préhistoriques ancêtres magdaléniens, vivaient, faisaient des cérémonies, et notamment contemplaient les étoiles qui était découpé dans le ciel. Et devant cette grotte, il y a des montagnes qui sont dessinées, qui tout d'un coup se mettent à respirer lorsqu'on les voit. Et l'architecte qui a créé ce vaisseau qu'on appelle la chauve-souris dans la région a tout d'un coup détruit la possibilité de regarder les étoiles, c'est-à-dire de regarder les constellations que nos ancêtres voyaient. Donc une dimension spirituelle a été cassée d'une manière définitive et j'étais dans une colère noire contre mes contemporains, contre les gens du tourisme, contre même les archéologues qui ont laissé faire cela, ce qui est chose qu'on peut retrouver ailleurs, et j'ai décidé d'écrire un manifeste qui s'appelle le manifeste magdalénien, qui revendique cette force et qui dénonce le cataclysme contemporain. Il faut dire aussi une chose, c'est que à l'intérieur de cette grotte, je voyais les bisons traversés par des flèches et je savais, comme j'avais vécu pendant des années auprès des Indiens Wicharikas, je savais que les flèches qui entraient à l'intérieur des bisons étaient des flèches votives, c'était des flèches de prière, ce n'est pas des flèches qui servaient à tuer pour aller à la chasse après. Donc j'ai écrit le manifeste magdalénien et ça a été, je voulais vous le lire aujourd'hui, vous en avez quelques exemplaires, peut-être je vous en lirai quelques extraits. La seconde chose, quand j'étais enfant, j'allais au musée du Jardin des Plantes, au muséum. Et je me souviens, si certains d'entre vous ont eu cette expérience, ont connu cette expérience, ont connu ce moment de joie, on rentrait dans un vaste ensemble qui débordait de collections, qui débordait de scarabées, de papillons, qui débordait de flèches, qui débordait de haches préhistoriques. Et ça faisait des années que je n'avais pas été au musée du Jardin des Plantes. Et là, j'y suis revenu il y a une quinzaine d'années. Et tout d'un coup, cette grande salle qui m'avait fasciné quand j'étais enfant et qui a fait que plus tard je suis devenu en partie archéologue préhistorien, c'était la grande salle Carteillac où il y avait des milliers de haches, des milliers de flèches, des milliers d'armes et d'outils lithiques. Et je ne comprenais pas tous ces outils, mais ils m'ont traversé tout d'un coup. Et puis quelques années après, je commençais mes premières fouilles dans le gisement chasséen, dans ce lit. Et c'était cette profusion, toutes ces flèches qui m'ont traversé, qui m'ont habité de l'intérieur, qui m'ont donné une spiritualité, je dirais même une âme, et qui ont fait qu'un jour, j'ai voulu explorer l'archéologie préhistorique, c'est-à-dire étymologiquement, la parole ancestrale du Logos. Et là, j'arrive au Jardin des Plantes, au muséum du Jardin des Plantes, je reconnais mon éléphant, et la salle n'était pas là. Elle avait disparu. Je demande au directeur du musée, qui est toujours mon ami, enfin, qui est parti en ce moment, je dis, mais où sont les flèches prises? Où sont les dizaines de milliers? Il me dit, il y en avait trop. Ils sont tous dans des caisses. Elles sont dans les sous-sols, dans les archives du Jardin des Plantes. Et j'ai dit, mais non, nous avons choisi uniquement une hache sur les dizaines de milliers d'objets qu'il y avait là. Le pauvre Karl Marx ou le pauvre René Guénon se serait mis une balle dans la tête, hein, car passer du règne de la quantité au règne de la qualité, c'était quelque chose que malheureusement la politique culturelle de notre temps oublie. Donc j'étais là et j'ai cherché aussi la salle des papillons. La salle des papillons où il y avait des milliers de papillons, des milliers de scarabées, des milliers de... C'était... Je quittais la préhistoire et je trouvais les papillons comme des mots qui volaient dans l'air. Et je dis, oui, où sont les papillons? Ah, ils m'ont dit, il y en avait trop. on les a enlevés. Et dans ce, et là, je vois ici mon ami, mon vieil ami, Monsieur Mazelier, et là, au fond de cette salle aux papillons, derrière la préhistoire, lorsqu'on poussait la vitrine des papillons, il y avait un passage secret où le réseau Morange, dont son père et sa mère faisaient partie, se réunissait et qui allait derrière les papillons, derrière les mouches, derrière les araignées, derrière les flèches préhistoriques, et qui faisait tout d'un coup, qui permettait d'accéder au presbytère là où on faisait les réunions. Donc, même ma critique du temps, de la préhistoire et de la résistance avait disparu. Je me souviens aussi, il n'y a pas très longtemps, je crois toujours avoir 18-19 ans, lorsque je prenais mes cours de préhistoire, avec peut-être certains que vous avez connus, M. Nougier et M. Barrière, et c'est eux qui m'ont transmis toute cette pulsion de la préhistoire avec Maury et les cours de paléontologie humaine et animale. C'était à côté de la bibliothèque. Alors, la bibliothèque était juste à côté de celle-ci. Et quand il y avait certains livres auxquels nous n'avions pas accès, et nous étions obligés de venir ici pour relire ces livres. Donc, ici, nous étions dans une préhistoire. Alors, que vous dire, un jour, à Lascaux, j'ai fait une expérience qui m'habite encore, une expérience que je ne dis pas aux enfants de faire, c'est une expérience hallucinogène, avec de la psilocybine, et avec des chants diphoniques, vous savez, un peu comme les Tibétains, et j'avais mes amis qui chantaient ces chants diphoniques, et là, tout d'un coup, toutes les peintures rupestres qu'il y avait sur les parois se sont mises à bouger, à onduler et à danser. Alors, je demande pas à mes publics, aux gens, de croire ce que je raconte. C'est mon expérience que je transmets. Et là, je suis à peu près certain, puisque c'était mon expérience que je vous donne, ma fiction, qui va devenir tout d'un coup une théorie, cette fiction qui va faire exploser ce que je sais et qui va rejoindre une autre expérience que j'ai rencontrée, cette fois-ci en Amérique latine, mais aussi en Ariège. C'est la trouvaille, la rencontre avec les champignons hallucinogènes, la psilocybine. Et je ne suis pas quelqu'un qui consomme ces choses-là, mais je sais que ça m'est arrivé aussi, de temps en temps, de rencontrer la psilocybine. Et lorsque j'étais en Amérique latine, c'est aussi, notamment au Mexique, avec la rencontre de Maria Sabina, que j'ai rencontré la force des champignons hallucinogènes. Et tout d'un coup, j'ai fait basculer ces rencontres ethnologico-géographiques contemporaines avec le vieux passé préhistorique de mes montagnes et de mes grottes, de nos régions, de cette vieille Occitanie, des Sorginacs, de cette vieille Occitanie des chamans. Et j'ai compris une chose, c'est que, qui a été confirmée après par des archéologues, c'est que le Magdalénien, s'il chassait le bison, ne chassait pas uniquement le bison pour sa fourrure, pour sa viande ou pour ses os, mais également il suivait ses excréments. Pourquoi ? Parce que c'est sur les excréments de ces mammifères que poussent les champignons hallucinogènes. Alors, à l'époque, quand j'ai raconté ça, les gens riaient. Mais c'est la poésie qui, pour moi, est une connaissance critique qui est fondamentale. Et c'est avec la poésie que j'ai pu accéder à des théories de la science. Ces champignons qu'on retrouve en Sibérie, qu'on retrouve au jour de Noël, dans les yourtes, etc. Je le raconte dans mon livre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que un jour, j'ai eu... Les cloches ont sonné, soudain, et puis dans la vallée de... Dans la Cuenca del Humo, en Espagne, on fait une découverte formidable, il n'y a pas très longtemps. Une frise de taureau et au-dessous, une frise de psilocybine. C'est-à-dire que le chaman, le poète, le sorginac de la préhistoire avait déjà associé l'excrément et le taureau. Tout ça pour vous raconter, je pourrais vous raconter des histoires à l'infini qui ont fait que lorsque j'ai eu 16 ans, je suis devenu archéologue avec une femme formidable qui est ethnologue, je ne sais pas si elle est toujours vivante, Suzy Gratacos, certaines de vous ont entendu parler d'elle. Et j'ai fouillé pendant tous les samedis, tous les dimanches, le gisement chassien qui se trouvait enseveli à côté des arènes romaines. Et là, dans ces chantiers, au milieu de ces bâtiments en construction, j'ai eu la joie, et j'en tremble encore, de trouver ma première flèche et ma première aiguille à os de renne. Voilà comment un jour j'ai basculé. Et puis je n'ai eu de cesse que de rencontrer ma préhistoire contemporaine. Et notamment l'exposition que j'ai faite, je vois quelqu'un des abattoirs là, cette exposition que j'ai faite aux abattoirs il y a plusieurs années, sur Saartchi Bat Arman, qui est une qu'on appelait la Vénus Hottentot, car la préhistoire est contemporaine. Il ne suffit pas de la chercher dans le passé. Elle est aussi une pulsion de l'avenir. C'est un animisme. Et c'est à partir de cela que j'ai compris que l'art contemporain, notamment la poésie contemporaine, est aussi une façon de retrouver un des universaux qui traverse et qui habite l'homo sapiens, c'est-à-dire l'animisme. Et cet animisme est recréé d'une manière conceptuelle, sans arrêt, dans une vibration permanente, dans les poèmes que nous écrivons. Voilà ce que je voulais vous dire à l'entrée en matière. Il y a quelque chose qui m'avait troublé, après on en discutera. J'avais pensé vous lire des extraits, mais je vous raconte pourquoi je suis devant vous et d'où je viens. Au musée de l'homme aussi, il y avait dans un bocal, j'en tremble encore, il y avait le cadavre, le torse, la tête d'une femme, c'était Saartchi Bat Arman, qu'on a appelé la Vénus Hottentot, qui avait été volée, puis bien sûr après violée, en Afrique du Sud, réduite à la prostitution, et qui était une des dernières représentantes, peut-être, de notre monde préhistorique contemporain. Elle est morte, elle est arrivée en Europe en 1810, et puis quelques années après avoir été à Londres, une femme très intelligente, très cultivée, qui avait appris à parler une dizaine de langues, et notamment ces langues qui m'ont permis de comprendre que peut-être nos ancêtres préhistoriques parlaient, c'était les fameuses langues à clic. Ces langues qui permettent de, comme quand vous appelez le cheval, lorsque vous appelez avec ces retenues qui bloquent tout d'un coup la respiration et qui vont vous faire aller de l'avant, langues à clic, où il y a très peu de traces. Vous en avez au Nigeria, mais surtout en Afrique du Sud. Et je ne casse pas la relation entre le poétique, le philosophique et le politique. Je marche toujours avec, en boitant peut-être parfois, avec ces trois jambes. Et c'est Nelson Mandela, lorsqu'il a été élu et lorsqu'il est sorti de prison, la première chose qu'il a fait, il a fait plusieurs choses, mais je ne vous dirai que celle-là. Ça a été la première, c'était d'aller à Cuba, parce que les Cubains l'avaient soutenu. Et la seconde, c'était de demander la libération du corps et le rapatriement du corps de la Vénus Hottentot de Paris. Et en 2002, je ne vous raconte pas toute l'histoire, les restes de cette Vénus Hottentot ont été rapatriés et elle a été inhumée par les gens de son peuple, comme on inhumait durant des dizaines de milliers d'années les êtres de la les êtres qui vivaient donc en Afrique du Sud.
Mémodio, une mémoire sonore.
J'ai été invité ici pour occuper 24 vitrines. Et on ne peut pas imaginer mon travail, mon implication, mon engagement sans la préhistoire. La semaine dernière, il y a un mois, j'ai parlé de ma relation au bâton, pourquoi j'écrivais des poèmes sur les bâtons, et là, pourquoi j'ai voulu faire une vitrine consacrée à la préhistoire, dont une partie des caisses que vous voyez ont été déjà exposées au musée d'histoire naturelle. Ce sont des extraits. Voilà. J'écris une lettre au chaman de la grotte des Trois Frères. La grotte des Trois Frères, vous connaissez cette grotte, hein. Et ici, vous avez donc en couverture de ce livre, qui s'appelle le Manifeste magdalénien critique du temps, vous avez ce chaman qui est déguisé, et il est miniature, hein, il faut savoir le voir, et je lui écris une lettre, et c'est cette lettre qui est publiée donc dans ce livre, et c'est un hommage à ce chaman, à ce sorcier de la grotte des Trois Frères, que je dédie 24 vitrines de la grande coupole de la bibliothèque du Périgord. Voilà. Je vais peut-être vous lire un extrait de... Voilà, quelque chose qui s'appelle tombeau oral avec les langues à clic venues du monde pour Sarah G. Bartman, enlevée de sa terre d'Afrique du Sud en 1810 et conservée au Musée de l'Homme à Paris jusqu'en 2002 dans du formol. Alors le travail que je vais vous lire en partie est une fiction. Mais je pense que la poésie fait des trous dans la connaissance. Il y a plusieurs façons de parvenir à cette connaissance. Donc c'est une reconstruction, une reconstitution de langue à clic que j'ai attribuée à Sarah G. Bartman. C'est moi. Je m'appelle Sarah G. Bartman ou Chesura, je ne sais pas. Chut, ischt, 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 ischt. Entends mes pas dans la vallée de la Cantos, près du Cap, sur la terre des Coïssons. Chut, 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 hic, hic. Suis fille d'un Bochiman et d'une mère Khoïkhoï. Un morceau de miroir m'ouvre la tête. Autre claquement, trois fois. La vérité est un concept nécessaire. Les oiseaux déchirent le ciel quand ils volent la lumière. Resté 186 ans dans le formol au Musée de l'Homme jusqu'au 9 août 2002. On a rapatrié mes fémurs avec des scorpions dans les poubelles. À mon enterrement, mes cousins tordaient des fleurs de fer au milieu des rosiers. Il y avait Thabo Mbeki et Nelson Mandela, le silence fermait un point dans leur bouche. Ce qui restait de mon corps fut dispersé par ma famille, avec du sang de hyène et des poissons brûlés. Je suis né en 1789, année de la Déclaration des droits de l'homme. Mon nom n'est pas mon nom. Je suis Sawache Sahachi, ou Chesura, comme un crabe qui se déplace dans le feu. Des mouches sucent le sang du verre. J'ai enfermé 10 000 veuves dans un nuage de lèvres. C'est moi, Chesura. Les noyés jouent aux cartes dans les cellules et les baignoires remplies d'eau. J'ai été découpé au nom du progrès des sciences humaines. Les essuie-glaces de la police battent des araignées et des papillons en électrifiant les enfants de Soweto. Répondez au silence. C'est moi, Chesura, stocké jusqu'en 1974 au musée de l'homme, à côté d'intestins en silex et de momies aux genoux pliés. Écoutez, c'est moi, je suis un spécimen noir de l'humanité noire. Vous pouvez voir mon corps dans les cavernes et les cinémas. Fiche d'identité, organes génitaux protubérants, nymphes allongées, graisse accumulée dans les fesses, zone d'émeute. Dans les images, les hommes m'insultent en priant avec des croix gammées. C'est moi, je ne sais pas. Je me promène avec des jupes de crime rouges. Je me souviens de l'avenir qui se défait, toujours dans mon eau, des 3 et 4 août 1992, où l'ANC, le Congrès des syndicats et le Parti communiste appellent à la grève générale. Aux eaux, une louve me regardait la bouche, pleine de clous et de souliers et de frites. J'entends les arbres en retard qui marchent sur les villes. Dans mes bras, un enfant nain pille la lumière. C'est mon fils que je n'ai jamais revu. Quand le fantôme de ma mère s'est adressé à la foule, il a dit « Prenez-la, prenez-la, elle est votre fille à tous. » Il a dit encore « Je vous accuse d'abandon de poésie et de peuple. Les coyotes dressent des procès au désert devant le suicide de la lumière. Les livres n'ont pas la force de juger les morts. Les témoins sont partis, les yeux arrachés dans l'apartheid de nos terres. Écoutez, je suis de la race qui vous voit, la merde et la neige. Les réponses mettent à nu les questions. Sous nous, notre rayon, dans les carrosseries des bagnoles, se tatouent des poèmes sur leur peau. Dehors, la nuit se lave et des aboiements assemblent des milliers de rochers sur les morts. Incendier les portes est la seule manière de sortir de vos prisons. Ils ont comparé ma gueule à celle d'un orang-outan et mes reins à ceux des femelles mandrilles, et j'ai chanté à Wembley devant 72 000 Jésus-Christ noirs. Je m'appelle Sawache, chaque jour mes gardiens tiennent sur mes cheveux des groins de papier mâché et de plastique. On a procédé au moulage de mon corps à côté d'un fantôme. C'était sans importance, nous le savons, les poumons des nouveaux-nés sont remplis de dents et de morve. On m'a cousu dans le ventre d'un cochon mort avec du fil de fer et des serviettes. Chut, chut, chut. Les ballons sont des têtes d'enfants guillotinées dans les écoles. Le 9 août 2002, je suis revenu accompagné d'animaux tout noirs à la morgue du Cap. On ne savait pas comment scier mes yeux ni ma langue. Voilà, je ne savais pas comment je voulais commencer, mais le récit de mes souvenirs m'a conduit en Afrique du Sud, à côté de Nelson Mandela et de la Vénus Hottentote, qui a représenté une césure dans l'histoire de nos préhistoires contemporaines. Voilà. Les langues acliques sont des langues extraordinaires. Et peut-être qu'en Europe, il en reste quelques traces. Mais en même temps, ça m'a permis, cette préhistoire contemporaine, de revivifier et de réécrire et d'intégrer à l'intérieur de mes métaphores des sons qui sont proches de ceux de la poésie sonore, du mouvement lettriste que j'ai fréquenté avec Isidore Isou. C'est pour ça que je dis que la préhistoire est contemporaine. Et mes amis Isidore Isou, Maurice Lemaître, lorsqu'il crée ses répétitions en hoquet, retrouver des vieilles choses. Henri Chopin, ne confondez pas avec l'autre Chopin, Henri Chopin, lorsqu'il était résistant, lorsqu'il était dans au camp de Dachau, il s'est évadé. Et il a traversé les lignes de l'armée rouge et il a été hébergé par des chamans qui étaient d'origine tchétchène. Et c'est là, avec ces chamans-là, qu'il est revenu en France et qu'il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la poésie sonore. Voilà. Comme quoi, ce sont des vieilles histoires. Et qui, tout ça pour vous dire que passé, je vois qu'il y a un philosophe dans la salle, passé, présent, avenir, où est le présent ? Nietzsche y répond bien, et les autres aussi, philosophes, comme Bergson. Voilà, écoutez, je ne sais pas comment continuer, mais je vous laisse la parole. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur les couleurs de la préhistoire ? Non, la seule chose, je le répète, c'est la poésie qui me permet d'accéder à des mondes auxquels d'habitude on n'accède pas. Hein. Je sais qu'en mangeant le peyote, qui est une substance que manger, c'est un cactus, l'équivalent des magdaléniens en Amérique centrale, et même dans l'Amérique du Nord, hein, et surtout en Amérique du Nord, pardon, on a accès à des moments de la vision que ne peuvent pas voir les autres. Et pour voir la nuit, il faut consommer le peyote, ce qui vous permet de voir des formes. Et à l'intérieur d'une grotte, certes, on peut s'éclairer avec des torches de résine, mais à l'intérieur d'une grotte, on peut pénétrer très loin dans une grotte avec le peyote. Et je pense, mais je n'ai pas fait la même expérience avec la psilocybine. Et donc, ça fait voir. Voilà. C'est là que je suis rentré en contact avec les itouris, qu'on appelle les lits des dieux, sur lesquels ces êtres qui sont encore, qui conservent encore les âmes des enfants qui viennent de naître dans des cristaux de roche, ces peuples du poème, c'est ainsi que je les appelle, réinventent des visions. Les couleurs, moi je ne peux parler que des couleurs, celles de la préhistoire, mais ce sont les couleurs naturelles qu'on peut extraire, justement. Mais nous n'avons accès qu'à celles aux couleurs qui sont à l'intérieur des grottes, et nous n'avons plus accès aux couleurs ni aux formes qui sont à l'extérieur des grottes et qui étaient beaucoup plus majoritaires. Les grottes ne sont que des temples, des lieux, des espaces rituels qui permettaient de vivre et de rentrer en communication avec les dieux. D'ailleurs, quand je discutais avec Octavio Paz sur ces choses-là, il me disait, oui, nous avons un contact, nous établissons des ponts avec la préhistoire, avec le chamanisme, mais il ne faut pas oublier que nous, pour être contemporains, aussi nous sommes des artisans, nous écrivons. et nous fabriquons, nous faisons, nous opérons des dialectiques fondamentales avec les mots. Donc à la fois, mon témoignage est celui que je peux donner. Mais il ne faut pas le prendre comme une certitude, quelque chose d'objectif, une certitude, un élément de traverse et d'inspiration. Donc les couleurs de la préhistoire, j'ai toujours rêvé en couleurs, mais toujours à ma façon. Les couleurs, par exemple, de Lascaux sont fondamentales. Le cerf n'est pas récurrent dans ma poétique, il est récurrent dans mon livre qui s'appelle Nierica ou les mémoires du cinquième soleil, qui dans le texte, qui dans la mythologie et les cosmogonies des Indiens Wicharika, il se nomme Oui Marie et qui est la réincarnation du dieu soleil. Effectivement, lorsque vous voyez, et toutes ces expériences m'ont permis, mais à tort ou à raison, mais en fait c'est ma vérité que je vous expose, de comprendre parfois ce qui m'a fait faire, ce qui m'a fait effectuer des dialogues avec des archéologues préhistoriens, parce que moi, je ne suis pas un archéologue préhistorien. J'ai fait des fouilles dans le passé, je lis toujours des livres de préhistoire, mais je ne fouille plus. Et je ne suis pas, c'est pas ma profession. Mais en même temps, établir des ponts, notamment avec un monsieur qui est mort, qui était mon ami, Jean Fabre, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui était un type formidable. D'ailleurs, avec lui, nous réfléchissions à une chose fondamentale, c'est que les grottes préhistoriques, c'est toujours les chiens et les enfants qui les trouvent. Vous savez, qui les découvrent, et on dit qu'ils les inventent. Et ça, il a écrit un texte vraiment percutant, précis, là-dessus, les enfants et les chiens qui découvrent les grottes, qui découvrent les mondes des dieux souterrains. Et donc le cerf m'a intéressé à cause de Saint-Hubert, à cause de la mythologie aussi celte. Et quand on arrive en Amérique du Nord, le culte du cerf se continue, se perpétue, et qu'on le retrouve aussi dans les étoiles, hein, dans les étoiles du ciel. Et je pense qu'il y a eu des migrations historiques, enfin pas historiques, c'est un contresens, mais dans la préhistoire, parce que l'histoire, c'est quand l'écriture s'impose à nous, mais en même temps, je pense que ce que je fais, moi, ce n'est qu'un travail autour du langage des mots, et que la préhistoire est un petit moment, est une mystique, une spiritualité, mais en même temps, que la préhistoire, c'est une façon de parler le monde comme si un avenir était dans mes épaules et qui me donnait un coup de poignard pour regarder le présent qui vient devant nous. C'est le souvenir, c'est-à-dire quelque chose qui est sous ce qui vient, sous le venir, qui me permet de penser le monde. Et la préhistoire est là. Je vais vous lire, si vous n'êtes pas trop fatigué, un dernier texte. C'est le chant de l'homme de Totavel, chant de l'homme de Totavel à l'humanité du XXIe siècle. Alors vous situez tous Totavel, hein, si vous passez dans la région, allez-y, mais n'y allez pas comme des curieux. Allez-y en regardant le canigou qui est en face, que lui aussi a vu. Et établissez un pont, une spiritualité, entre lui et vous, c'est le jour, c'est la nuit, c'est la terre, c'est un trou dans une photo de la lumière, c'est une main, c'est l'infini qui chute et se finit, c'est l'arbre qui fait bouger la lumière, c'est le jour, c'est la nuit qui ne le sait pas, c'est une ceinture de silence, c'est une montre de pierre et de clé, c'est une marche pieds nus sans veste et sans rivière, c'est une valise d'oiseaux morts et de chiens électriques allumés. Écoute le haut-parleur qui ordonne au soleil de préparer sa lumière, c'est une corde qui descend dans un trou, c'est un trou. Je dénombre la moitié de mon crâne incomplet sur les albums de timbres. Je vois mon œil crevé partout sous un néon. J'ai 450 000 ans, plus ou moins l'infini. Sans lui et contre lui, je ne sais pas s'il est fini. Je suis une face, un frontal et un pariétal droit et une ombre venue de l'arrière. C'est les choses qu'on a retrouvées en toi, de lui et d'elle, en vous et en nous, en lui et de moi. Je suis 5 millions. 160 000 lunes ou encore 226 milliards de fumées. Je suis une mandibule de femme, en nous, comme en vous, comme en elle et en lui, comme une île. Je continue à hacher les horloges et à me trancher les veines avec leurs aiguilles tordues. Je suis une incisive et le 140e, 8e reste humain qui a bu la rivière. Ouvre ton sac! Tais-toi, écarte les bras, ne porte pas de liquide et d'armes à feu, ni briquet, ni alcool, ni lame. Je peine à te découvrir à travers les vitres, les loupes et les hameçons. Tu m'as entendu, tu m'entends, vous m'entendrez. Tu as défiguré mes affiches et mes figures et mes étiquettes de conserve. Je suis le grand-père de tes bébés, de tes mères porteuses, de tes spermes et de tes éprouvettes d'oiseaux congelés. Maintenant, je ne bouge plus, j'ai les mains collées sur de l'acier dans le silence. Une partie de mon crâne est au musée devant toi et te scrute pour l'appel et la visite des morts. La face, le frontal et le pariétal droit sont immobilisés par des vis et des balles. Je vais te parler de mes âmes en leurs nombres et noms, et mandibules et dents, en débris d'os non identifiés, en division de calendrier, de climat et de lune et d'urgence. La statue sur la place est courbée, inclinée sur le dessin de tes pages, mais je reste debout devant mon ombre, même si en ce temps-là, je pissais assis. Pour me parler, il faut renverser le monde et l'arroser d'essence et de poison. L'espérance ne se voit qu'en dessous de son trapèze. Nous la retournons pour diviser ses fantômes, surgit des égouts et des bouteilles et des froissements de papillons. Je suis mort en pleine vie, en pleine guerre de la lumière. Comme toi, je caresse des chiens qui naissent accrochés à des porte-manteaux, à des sens interdits et à des mains giratoires. Feu rouge, c'est toujours demain, c'est toujours hier, c'est toujours le silence. Je te le dis aujourd'hui, je prends une guitare radioactive pour te parler dans les décharges et les crapauds de la chaleur. J'ai un ordinateur pour retrouver mon histoire. Je suis un cannibale de la lumière, du sang coule des oranges que tu partages avec les blessés. Unir les deux mains et la condition de nos passés qui marchent, c'est ce qui nous conduit à détourner les fleuves et les preuves et les reflets de l'eau. L'éternité est au prix de la destruction de sa propre éternité qui oublie sa misère d'être toujours là. Je suis venu négocier les chronologies et les touristes et les crimes contre la beauté qui ne sont jamais jugés. Des enfants pourris lancent des glaces pleines de mégots et de dents de chèvre. Je vois passer des avions du haut des arbres qui hantent le mercure et la neige. Le musée où je meurs une seconde fois est un dortoir où les malades sont des passants de l'été. Ils dégueulent des mouches et des gigots de moustiques et de cerisiers. Je n'ai pas le temps, j'ouvre les roses avec les roses en démontant leurs bouquets et le ciel avec le ciel et une huître avec une huître. Je dénoue des morts quand j'accouche dans mes fanfares d'or. Je suis une bête de pierre, la dernière des bêtes, la première des bêtes. J'ai le cerveau trempé dans les lavandes et je m'endors tout salé dans une mare avec un poisson de fer qui étouffe le matin. Prenez pitié pour les bateaux. Prenez pitié pour les malades, prenez pitié. Mon dos est une étagère de vertèbres et de phalanges et d'orteils sans pieds. J'ouvre midi, je suis l'homme d'autotavel, antenne de télé éolienne pour capter le vent dans une cage. Je suis l'homme d'autotavel, Je suis vieux, je suis jeune, je suis une femme, je suis un morceau d'os, je suis homosexuel, je ne suis pas un verbe. Dépêche-toi de venir, je t'attends, je viens à toi avec des montres truquées, des baromètres et des compteurs Geiger pour mesurer en couleur tes souliers. Je te compte, je me compte, je déchire les bras de la poésie pour durant un moment avoir la force de toute la poésie. J'ai 20 ans à Treblinka, dans Legas, un cheval debout dans la neige, devant une croix nue et un peu de mort. Nous frappons sur l'enclume de l'air, nous cousons le passé dans des bouteilles où l'histoire pourrit plusieurs histoires. Les visiteurs font la queue avec une loupe pour observer un microbe appelé Karl Marx. Rimbaud est un rhinocéros et Verlaine un rat dans un pénitencier américain. Devant la gare, on a ajouté des blessures au Christ car il n'y en avait pas assez au goût de ceux qui le plaignaient ou le peignaient dans les églises. On vend son sang dans des bouteilles de bière et les malades du sida boivent sa rédemption liquide qui coule sur tous. Regardez. Il bouche toutes ses pores et toutes ses portes. Il saigne du silence. J'ai 450 000 ans. Je ne sais pas, un peu moins ou un peu plus que l'infini. Je suis une face et un frontal et un pariétal droit. En toi, de lui et d'elle, en vous et en nous, en il et en elle de vous. Je suis une mandibule en sein de femme, en vagin de silex et de corde d'arc. Je ne connais pas les cimetières, je casse tes vertèbres pour en aspirer le jus. Je suis 140 restes d'os et demain, je serai sûrement un de plus. Le rapport entre l'uranium de 134 et le thorium de 130 permet de dater mes stalagmites et mes signatures. On a utilisé aussi la résonance de spin et la thermoluminescence pour mesurer mes cheveux solides. Mais c'est la spectrométrie gamma qui a estimé mon âge. À 450 000 ans, tu le sais, je m'appelle Arago 21 et j'ai seulement 20 ans. En nous, en vous, en toi, je continue à casser les boussoles et d'arracher leurs yeux de verre brisé. Je suis une incisive et un sacrum. Je suis 7 dents isolées et un fémur complet. J'ai mangé ta lumière avec des langues de chien au milieu de tes dents. Je suis 5 millions. 160 000 lunes, ou encore 226 milliards de minutes, même si les heures, en montant, n'existaient pas. Merci.
Mémodio, une mémoire sonore.